franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Il est donc précisément 8h30, vous venez de le dire Patricia, mais dans 24 heures, il sera 1h de moins, 7h30. Heure d'aujourd'hui, mais 8h30, heure de demain, car c'est cette nuit qu'en France, on passe à l'heure d'hiver. À 3h, il sera
2h. À 8h30, il est toujours 8h30, de toute façon,
oui.
D'une certaine manière.
D'une certaine manière, hein, vous avez raison. Une semaine, une heure de sommeil en plus, nous explique le Parisien ce matin. Une bonne nouvelle, a priori, surtout pour ceux qui, comme nous, doivent se lever très tôt. Mais attention, le changement d'heure a aussi son côté obscur, ainsi que nous l'explique ce matin Libération. Mise en place pour des raisons d'économie d'énergie, il s'accompagne en effet d'une augmentation des accidents de la route. La délégation à la sécurité routière s'est d'ailleurs fendue d'un communiqué un brin anxiogène. Ces 5 dernières années, le nombre d'accidents corporels des piétons en novembre est supérieur de 3% à celui d'octobre. Et pour la tranche horaire 17h-19h, l'augmentation atteint même 40%. La raison, c'est que la nuit tombe plus tôt, au moment des sorties des bureaux et des classes, et l'éclairage public, comme celui des voitures, ne suffisent pas toujours à bien voir les cyclistes ou bien ceux qui traversent sur les passages piétons. Il semblerait toutefois que le corps s'adapterait mieux et plus rapidement à l'heure d'hiver qu'à l'heure d'été. On relève ça et là des troubles du sommeil, voire des changements d'humeur lors du passage à l'heure d'hiver, mais rien à voir avec ce qu'on constate lorsqu'on doit de nouveau régler nos montres 6 mois plus tard. Selon une étude américaine, il y aurait ainsi 25% d'infarctus en plus le lundi suivant le passage à l'heure d'été. Des infarctus pour l'heure d'été, des accidents pour l'heure d'hiver. Pourquoi le changement d'heure tue ? C'est le titre du papier, pas très réjouissant pour débuter la journée.
Cependant, il est un pays qui a décidé de rester à l'heure d'été toute l'année.
Et ce pays, c'est la Turquie. Fini le réglage des pendules 2 fois par an, dorénavant, on ne touche plus les aiguilles, c'est ce que nous apprend Marie Jégot dans M, le magazine du Monde, précisant que l'initiative a été prise par le ministre de l'Énergie, qui est aussi le gendre du président Erdogan. D'après lui, cela permettra de faire de substantielles économies, sans compter que ses concitoyens pourront profiter plus longtemps de l'ensoleillement. Et cette mesure n'est franchement pas anodine, car jusqu'ici, les 75 millions de Turcs partageaient la même heure que leurs voisins européens. Comment pourrons-nous ajuster notre temps de travail ? S'interrogent du coup certains hommes d'affaires du pays. En Turquie, les 3/4 du secteur textile commercent avec l'Union européenne. Or donc, à partir de demain, quand les entrepreneurs d'Istanbul arriveront au bureau à 8h du matin, il ne sera que 5h à Londres et 6h à Paris, à Madrid et Berlin. Difficile pour les exportateurs de joindre leurs principaux interlocuteurs avant le début de l'après-midi. Cela dit, il en est également qui se réjouissent, à l'instar des théologiens et des masses pieuses qui servent de socle au parti islamo-conservateur au pouvoir. Tout cela jubile à l'idée de vivre à l'unisson avec les frères du Golfe et de l'Arabie Saoudite. Désormais, les prières et les grandes fêtes religieuses auront lieu en même temps qu'à La Mecque et Médine. Au même moment, il apparaît donc qu'il s'agit là davantage d'un choix religieux qu'économique. La Turquie reste à l'heure d'été, mais pour la journaliste turque, c'est franchement l'hiver avant l'heure.
Oui, c'est ce que l'on perçoit à la lecture de l'hebdomadaire Le 1.
Numéro consacré au combat que mène notamment le journaliste Can Dündar, que Recep Erdogan essaie de faire taire depuis maintenant des années. Un journaliste contre le président, titre l'hebdomadaire, qui présente la Turquie comme la plus grande prison de journalistes au monde. Depuis la tentative de coup d'état de juillet dernier, 130 journalistes ont été jetés en prison et des centaines d'autres contraints au chômage avec l'interdiction des chaînes de télé et des journaux se permettant de critiquer le pouvoir. C'est ainsi ce que se permet Can Dündar, dont le quotidien, quelques jours après l'attentat de Charlie Hebdo, eut le courage de publier quelques pages du numéro écrit par les journalistes survivants. C'est ce qu'il raconte, l'augmente dans le 1, les menaces, les pressions, la liberté réduite et la rage d'Erdogan, quand Dündar a publié par la suite des documents prouvant que les services secrets turcs avaient livré des armes à des groupes djihadistes en Syrie, des révélations qui lui valurent des poursuites judiciaires de la part du gouvernement, plusieurs mois de prison ainsi qu'une tentative d'assassinat. Lisez ce récit, la lutte pour l'information, la lutte pour la liberté d'informer en Turquie.
À la une du Figaro, cette fois, une nouvelle nettement plus joyeuse.
Une photo joyeuse aussi. Grande photo de manchots déambulant sur la banquise. Ils ont l'air très heureux. À dire vrai, ils ont de quoi, comme explique le titre. 24 pays créent la plus grande réserve marine du monde en Antarctique. Une excellente décision pour l'environnement. Hier, après des années de blocage, principalement par la Russie, la communauté internationale a donc trouvé un consensus pour mettre en place le plus grand sanctuaire marin de la planète, une vaste réserve protégée d'1,5 million de kilomètres carrés dans les eaux glacées de la mer de Ross, une réserve d'ores et déjà baptisée le Jardin d'Éden polaire. Lui, certains de ses proches le trouvent de plus en plus manchot, fantôme de François Hollande à la une du Parisien, avec ce mot, quatre lettres, seul, même aux yeux de ses plus fidèles soutiens. Le chef de l'État n'apparaît plus comme le candidat naturel de la gauche pour la prochaine présidentielle. Il a tout cassé, estime ainsi le député des Hauts-de-Seine, Sébastien Pietrasanta. Tout cassé notamment avec ses confidences malheureuses accordées aux deux auteurs du livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Un livre qui m'a ébranlé et choqué tant sur la forme que sur le fond, confie l'élu du PS. C'est, dit-il, un immense gâchis. Car on peut être fier de notre bilan, fier de la façon dont le chef de l'État a géré les attentats. Mais avec ce livre, Hollande a tout gâché et nous, on rame derrière. Il rame et les experts électoraux les plus optimistes prédisent au PS moitié moins de députés après les législatives du mois de juin. Les plus pessimistes leur en prédisent même une petite trentaine, avec, à l'inverse, au moins 50 députés du Front National. À propos du livre, si l'on en croit Le Monde, Manuel Valls aurait même lui aussi évoqué sa colère et la honte ressentie, selon lui, par les militants du Parti Socialiste. La honte, la colère, mais aussi l'abattement chez les parlementaires, qui craignent donc une véritable débâcle électorale. Mais... ne l'enterrons pas trop vite, estime cependant Jean-Louis Debré dans Le Parisien. Pour l'ancien président du Conseil constitutionnel, très proche de Jacques Chirac, il a connu toutes les aventures électorales avec lui, François Hollande est certes très mal parti et il a mis beaucoup de talent à détruire ce qu'il avait, mais il reste, dit-il, un bon technicien de la politique et un vrai combattant. Quand les compliments viennent des adversaires, je ne sais pas si c'est très bon signe. Pas compliment en revanche dans la bouche de Nicolas Sarkozy, mais une nouvelle explication de texte dans les colonnes de Nice matin, jeudi. Il expliquait qu'en cas d'un second tour opposant François Hollande et Marine Le Pen, il irait voter pour le premier. Il le redit ce matin, mais redit également que c'est un cas de figure hautement improbable et que voter Hollande serait pour lui une douleur extrême. C'est pas exagéré.
Dossier douloureux à lire également dans Libération.
Oui, douloureux pour les gourmands, douloureux pour les gourmets, dont vous faites partie, je crois, Patricia, profitant de l'ouverture du Salon du Chocolat. Le Quotidien a décidé d'explorer la face sombre de ce qu'on appelle l'or brun. Vieux de 400 ans, le modèle économique de l'industrie du chocolat est en train de vaciller, notamment parce que les ressources en cacao s'épuisent. Et les grands groupes industriels tentent de trouver désormais la parade, notamment en imaginant des produits de substitution, farine de caroubier, graisse végétale, arômes chimiques. Pas sûr que les consommateurs gagnent au change. Enfin, deux informations. Information culture. Bob Dylan ira recevoir son Nobel de littérature. Il explique au Daily Télégraphe. Nouvelle stupéfiante, nouvelle incroyable, dit-il, mais après quelques semaines de silence, il ira donc recevoir son Nobel. Il était temps, dira-t-on. Et puis j'ai lu dans la presse picole.
Je sais pas comment ça se passe d'ailleurs quand un Nobel, mais c'est jamais arrivé, ne va pas à la cérémonie.
Qu'est-ce qu'on fait du
chèque.
Prix Du chèque.
Bah oui.
Bah je ne sais pas.
Eh oui, parce que ça a quand même quelques centaines de milliers d'euros.
Bah oui.
Non, mais c'était juste une question.
Mais c'est une vraie
Est-ce
question.
Est-ce que ça lui est envoyé par la poste dans ce cas-là?
Mais je ne sais pas. Connaît-on son adresse d'ailleurs, monsieur?
Ah bah moi pas, non. Peut-être
en tout
vous.
Cas,
je sais
il
pas,
viendra.
Pierre Veille, peut-être, parce que
il
Pierre
viendra,
Veille l'a vu plein de fois sur scène.
Après s'être tu, il viendra. Et puis une dernière info lue dans la presse People. Diane Kruger s'est séparée de son compagnon.
Oui.
Il était temps. Pourquoi il dit ça?
Mais je sais pas pourquoi il dit pourquoi ça, mais il est fou cet homme.
Mais parce
pourquoi
qu'elle est libre désormais.
Et alors
oui, oui. Elle est libre.
Mais vous ne l'êtes pas.
Elle est libre.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.